Pascal Vidal, bonjour.
Bonjour. Bonjour à chacun et à chacune.
Merci d'être avec nous et d'offrir ce temps pour nos auditeurs. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas déjà?
Oui, je suis donc Pascal Vidal. Je suis psychologue et psychanalyste à Montpellier, en cabinet et également à l'hôpital en pédiatrie, et plus particulièrement en pédiatrie avec des enfants atteints de maladies infectieuses ou chroniques. J'enseigne également dans de nombreux endroits. Et pour le propos qui nous concerne aujourd'hui, nous avons été éducateurs au CLAIR, à l'association CLAIR Amour et Famille, pendant 15 ans avec mon mari, qui m'a donné depuis une trentaine d'années une expérience aussi sur ce sujet-là.
Merci.
Donc, je commence. Je voudrais dire d'abord que je vais survoler un petit peu le thème aujourd'hui, mais que je l'ai détaillé dans un livre que j'ai intitulé « Les catholiques, les cathos et la sexualité » qui est paru chez Salvatore, où j'aborde également des thèmes comme la contraception, la relation sexuelle avant le mariage, la procréation médicalement assistée. Alors, quand on parle d'homosexualité, il faudrait commencer par définir ce dont on parle. Alors, que veut dire homosexuel ? Homo, on retrouve dans homonyme, homologue, veut dire même. Homonyme, homologue, le même langage, homozygote, les mêmes gènes, etc. Homosexuel, c'est le même sexe. Il faut entendre ça, c'est parce que d'emblée, quand on dit homosexuel, on entend sexuel avant d'entendre homo. On pense assez fréquemment d'emblée à deux personnes qui couchent ensemble. J'ai l'habitude de dire de manière assez provocatoire que quand je me retrouve avec des copines à manger au restaurant, quand c'est possible, on est dans un dîner homosexuel. Ce qui choque beaucoup plus que de dire que j'enseigne dans une assemblée hétérosexuelle. Et pour faire goûter le fait que homosexuel a vraiment une connotation particulière. Je pense que ce n'est pas uniquement dans notre langue française. Ça, c'était pour le premier point. Le deuxième point, en tant que croyant, catholique et chrétien, pour moi, on a une urgence à demander pardon aux personnes qui ont une vie homosexuelle. Parce que il faut se rappeler, avant de parler du discours de saint Paul, qui n'est pas très doux en ce qui concerne les personnes qui ont une vie homosexuelle, pardon, la dépénalisation en France, elle date seulement de 1982. C'est-à-dire que jusqu'en 1982, c'était avant-hier, on pouvait aller en prison pour avoir eu une vie homosexuelle. Et aux États-Unis, la déclassification de l'homosexualité comme maladie mentale, ça date seulement de 1987. Donc, je pense qu'il faut comprendre que les réactions ou les attitudes des personnes qui ont une vie homosexuelle, elles ont été fragilisées, stigmatisées pendant des années par tout le monde et partout. Donc, la société civile leur a fait beaucoup de mal. C'est encore passible de mort dans 5 pays du monde. Pour comprendre ce qu'ils vivaient à ce moment-là, il y a un excellent film qui s'appelle « Imitation Game », qui retrace la vie d'Alan Turing, qui est le fondateur de l'ordinateur, qui a créé l'ordinateur et décodé la machine Enigma pendant la guerre de 1945, qui montre comment étaient traitées les personnes homosexuelles dans les années 50-60. Le pape François nous dit aussi, dans Amoris Laetitia, le paragraphe 36, « Il nous faut une salutaire réaction d'autocritique reconnaissant les souffrances provoquées par les maldits de l'Église. Nous avons largement contribué à provoquer ce dont nous nous plaignons aujourd'hui. » Voilà. Étant posé le, voilà, ce préambule, rentrons maintenant directement dans ce que dit l'Église de l'homosexualité. Vous retrouverez dans le catéchisme de l'Église catholique, dans les paragraphes 23, 57 et 23, jusqu'à 23, 59, le texte suivant. La tradition a toujours déclaré que les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés, ils sont contraires à la loi naturelle, ils ferment l'acte sexuel au don de la vie, ils ne procèdent pas d'une complémentarité affective et sexuelle véritable. Alors, écoutons ce que dit le texte. Désordonnés, contraires à la loi naturelle, ça veut dire quoi? C'est écrit, et ils ne sont pas fondés sur la différence entre l'homme et la femme. Or, le petit homme naît de cette différence. Donc, il n'y a pas de complémentarité véritable. Deuxième point, il n'y a pas de fécondité génitalement parlant. Je dis génitalement parlant parce que il n'y a pas qu'une fécondité génitale pour les êtres humains, heureusement pour les personnes qui ne sont pas mariées. Enfin, j'attire l'attention sur le fait qu'on parle d'actes d'homosexualité et pas de personne. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de juger une personne, on est en train de juger un acte. C'est très important de faire cette distinction. L'homosexualité, comme l'avortement, les divorcés remariés, est d'abord une histoire de changement du regard. Et pour la question des personnes ayant une vie homosexuelle, pour commencer, de reconnaissance du mal qui leur a été fait par notre rejet, propre rejet. Benoît XVI parlait de cultiver un regard de fraternité. Donc, voyons hein, vraiment ce qu'il est dit, comment c'est dit, pour après parler vraiment de ce qui est dit civilement, de ce qui est dit au niveau de l'Église. Voilà, et comme ça, on pourra un peu moins aller dans ce que j'appelle le faux témoignage. Alors maintenant, allons un petit peu plus loin, à titre d'information. En 2015, il y avait eu 8 000 unions de personnes de même sexe pour 230 000 mariages hétérosexuels. En 2019, il y a environ 6 200 mariages de personnes de même sexe contre 212 000 mariages hétérosexuels. Ensuite, je vous propose d'aller plus loin sur trois points. On dit souvent « ils n'ont pas le choix ». Ensuite, un petit point sur « personne n'est homosexuel ». Et troisième point, mais pourquoi l'homosexualité fait-elle tant scandale? Premier point, ils n'ont pas le choix. On entend très bien, ou très souvent, ils n'ont pas le choix ou je n'ai pas le choix. Alors, c'est marqué quelque part dans le catéchisme de l'Église catholique, dans le même un des paragraphes cités, qui dit « Un nombre non négligeable d'hommes et de femmes présente des tendances homosexuelles foncières. Cette propension objectivement désordonnés, constituent pour la plupart d'entre eux une épreuve. Ils doivent être accueillis avec respect, compassion et délicatesse. On évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste. Ces personnes sont appelées à réaliser la volonté de Dieu dans leur vie, et si elles sont chrétiennes, à unir au sacrifice de la croix du Seigneur les difficultés qu'elles peuvent rencontrer du fait de leur condition. » Donc, dans le catéchisme de l'Église catholique, il y a quelque part quelque chose qui va dans le sens de « ils n'ont pas le choix ». Or, psychanalytiquement et anthropologiquement, ce n'est pas juste. Parce que ça veut dire que, quelque part, c'est inscrit dans leur structure. Je suis homosexuel. Or, il y a quelque chose qui est toujours limite à dire « je suis un trait ». De caractère, comme je suis dépressif. Je ne suis pas dépressif, pas plus que je suis enseignante ou psychologue, je suis Pascal Vidal. Donc, il y a un danger à ramener à un seul trait, que ce soit l'homosexualité ou autre chose, une seule personne ou nous-mêmes. Il y a quelque chose de pas juste, de pas ajusté. S'il existe des différences entre deux hommes et deux femmes, elles ne pourront jamais être comparées aux différences qui existent entre un homme et une femme qui sont structurelles. C'est même justement parce que cette communion n'est pas envisageable pour de multiples raisons, généralement en rapport avec l'histoire personnelle, que certaines personnes préfèrent ne pas l'affronter. Donc, pourquoi on ne peut pas dire, et j'en suis à de mon deuxième point, personne n'est homosexuel. Et vous écrivez « naît » comme vous voulez, N'OST ou « naît » du verbe « naître ». C'est quelque chose qui peut s'imprimer très tôt, y compris dans la vie intra-utérine d'ailleurs, dans l'histoire transgénérationnelle, mais ce n'est pas structurel au sujet. C'est-à-dire que c'est quelque chose à entendre dans l'histoire du sujet et pas dans sa structure. C'est quand même très important de ne pas mêler, de ne pas coller l'histoire d'un sujet à sa structure. Alors surtout, nous croyons nous croyons profondément que Dieu est à l'intérieur de tout être humain. Et donc, saint, écrivez là aussi le saint comme vous voulez, à la base. Donc, se ramener, ou même soi-même, hein, en disant je suis quelqu'un de colérique, par exemple, en disant ben non, mais je ne peux pas faire autrement, pour telle raison, je suis comme ça, c'est toujours quelque part se dédouaner d'un changement. Voilà, comme on ne peut pas dire je suis abandonnée, je suis adoptée, je suis psychanalyste, je suis colérique, je suis jalouse, etc. Bon. J'ai des tendances jalouses, j'ai des tendances colériques, j'ai été abandonnée, je suis entre autres psychanalyste, oui. L'homosexualité n'est pas une identité, dit Jean-Pierre Winter dans Homo parentalité. Anthropologiquement parlant, l'identité n'inclut pas les choix sexuels. Sylviane Agacinski, qu'on ne peut pas taxer d'être la catholique pratiquante la plus convaincue, dit « la revendication du mariage homosexuel ou de l'homoparentalité n'a pu se formuler qu'à partir de la construction de la fiction de sujets de droit qui n'ont jamais existé, les hétérosexuels. Car ce n'est pas la sexualité des individus qui a jamais fondé le mariage ni la parenté, mais d'abord le sexe, c'est-à-dire la distinction anthropologique des hommes et des femmes. C'est important d'entendre quand même on doit se ramener à un niveau anthropologique pour savoir où on est. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'apprentissage de la différence fait partie de l'éducation humaine. On est en train de parler de différence entre hommes et femmes, entre autres, parce qu'aujourd'hui, cet apprentissage de la différence, elle est plus que compliquée dans différents domaines. Donc l'apprentissage de la différence fait partie de l'éducation humaine. Il est très coûteux en énergie psychique. Il demande un déplacement constant hors de soi pour entendre, comprendre le point de vue de l'autre, sans se sentir menacé intérieurement, structurellement. L'homosexualité est une étape du développement affectif, un passage normal, du développement affectif de nous tous. C'est ainsi que je suis très touchée, très en colère de personnes qui peuvent dire d'un adolescent qu'il est homosexuel. C'est pour moi gravissime parce que aujourd'hui on plaque une tendance qui est en plus normale, et je vais expliquer pourquoi, à l'adolescence, sur un sujet en disant « Ah oui, ah, t'es homosexuel ? Ah ben écoute, tu peux, hein, y a pas de problème, hein, c'est un choix comme un autre. » Alors que c'est pas du tout ça que l'enfant est en train de dire, peut-être. Il est peut-être en train de dire autre chose de son histoire, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Et en tout cas, c'est le plaquer d'emblée à une vie homosexuelle inscrite je ne sais pas où, c'est vraiment déstructurant. Et je ferai une remarque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les adolescents, dans les revendications qui arrivent actuellement, c'est pas « je suis homosexuel », c'est « je veux changer de sexe ». Je ferme la parenthèse, mais on pourra peut-être revenir là-dessus. Alors, commençons par la genèse de l'homosexualité. Je vous recommande ce petit livre qui n'est pas non plus une émanation du Vatican, de très loin, s'appelle « Votre cerveau n'a pas fini de vous étonner », qui en plus est très très optimiste sur ce que notre cerveau peut nous apporter tout au long de notre vie. Dans ce petit livre, on nous rappelle que l'humain naît dépendant. Nous sommes profondément dépendants, contrairement à l'animal, par exemple. Ce qui fait que la liberté, nous allons devoir la prendre. Ce n'est pas l'autonomie, nous allons devoir la prendre grâce à une éducation. Et donc, on va tous apprendre cette autonomie différemment, plus ou moins bien, avec des ratés. Deuxième point, dans ce livre, on apprend que l'humain apprend par mimétisme, c'est-à-dire par le même. Le bébé sourit parce qu'on lui sourit. Nous bâillons parce qu'en face, on a quelqu'un qui baille, etc. Ce qu'on a appris il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, avec le fonctionnement des neurones miroirs. Donc, le petit homme vient de la différence, mais pour l'apprendre, il va avoir besoin d'apprendre à connaître cette différence, voilà, tout au long de sa vie. La liberté n'est pas un acquis social, lit-on dans ce petit livre. Ce que l'on reçoit, c'est la capacité de se libérer progressivement. Non pas tant d'ailleurs du désir mimétique lui-même que de la rivalité à laquelle il nous pousse. Hein ? Il s'agit de se libérer de ce carcan, de la rivalité qui nous enferme dans la jalousie, l'envie et la violence. C'est écrit par un psychiatre. Le parallèle avec ce qu'on nous dit dans Genèse est quand même assez intéressant, aussi bien de la jalousie de Caïn et Abel que de la jalousie qu'utilise le serpent auprès d'Ève. Donc l'homme commence par imiter pour être en phase, puis il va tenter d'avoir ce que l'autre a par imitation également, qui est la base de la jalousie. Donc si on reprend la manière dont nous allons apprendre à aimer, parce qu'on voit que la première personne qu'on apprend à aimer, c'est maman 1 et 2 soi, c'est pas du tout l'autre. Nous allons petit à petit rencontrer d'autres, apprendre à se positionner plus ou moins par rapport à ces autres, et à l'adolescence, avec les hormones, le développement pubertaire, on va commencer à approcher l'autre de manière différente. Donc dans cette phase d'adolescence, avant d'aller affronter, entre guillemets, celui qui est différent de moi, et je le vois bien qu'il est différent de moi, il ne s'intéresse pas aux mêmes choses, il ne fonctionne pas de la même manière, il ne parle pas de la même manière, il n'a pas les mêmes besoins, on va commencer par s'identifier à du même, c'est-à-dire à rester avec ses pairs. C'est ce que les psychanalystes appellent la phase homosexuelle. C'est-à-dire qu'on va rester entre pairs avant d'aller affronter celui qui ne fonctionne pas comme moi. Vous entendez dans mon discours que ça veut dire qu'il faut croire à un fonctionnement différent de base, qui n'est pas dans le discours, ou peu dans le discours, parce qu'en fait, c'est peu dans le discours, mais c'est beaucoup dans la clinique, si je puis dire. C'est-à-dire que quand j'entendais un couple, une femme dans un couple dire « mais celui énervé par ce qui se passait avec son mari, mais celui qui dit qu'il n'y a pas de différence entre homme et femme, c'est quelqu'un qui n'est pas marié, c'est pas possible. » Donc, une différence de câblage, je veux dire, il faut la reconnaître, ce qui n'est pas dans l'air du temps, parce qu'on confond toujours différence intrinsèque et différence de valeur, ça n'a rien à voir, et on va le reprendre à la fin, ça. Mais il y a une vraie différence, et cette différence, il faut la comprendre. Mais pour la comprendre, il faut que moi, je sois bien dans ma propre sexualité, dans mon propre sexualité avec un grand S, qui n'est pas uniquement une sexualité génitale. Et donc, tout cet apprentissage va se faire au moment de l'adolescence. Troisième point que j'évoque avec vous, pourquoi l'homosexualité fait-elle tant scandale ? C'est quelque chose qui m'interroge toujours, je n'ai pas de réponse, hein, parce qu'elle m'a touchée, moi-même, je me suis prise à voir, il y a des années, des jugements très durs, et du coup, je me suis interrogée. Alors, la première chose que je me suis dit, j'ai été élevée, entre guillemets, par Denis Vasse, qui est jésuite, psychanalyste et médecin, qui disait le scandale, c'est l'émergence d'un désir inconscient. Or, nous avons été, nous pouvons être scandalisés par l'homosexualité. Donc, qu'est-ce qu'il en est de notre propre homosexualité ? c'est-à-dire de s'interroger sur ce passage de notre, non pas homosexualité génitale. Hein. Je vous rappelle que je ne suis pas en train de parler d'homosexualité génitale. Je suis en train de parler d'identification à des gens qui fonctionnent comme moi. Comment moi j'ai pu aborder ou pas cette différence. S'agit-il d'un désir d'indifférenciation qui serait fondé, comme on l'entend aujourd'hui, sur « si on était tous pareils, bon sang, enfin, on serait tous tranquilles ». Cette espèce d'imaginaire de penser qu'il n'y aurait plus d'inégalités, plus de jalousie, et que tout irait très très bien si on était tous pareils, éduqués de la même manière, etc. etc. Ou bien, troisième point, est-ce qu'il y a une véritable horreur de la différence, disait Jean-Pierre Winter. Alors, je ne suis pas persuadée que ce soit une horreur de la différence, mais je pense que c'est vraiment une difficulté profonde avec celui qui n'est pas comme moi, qui ne pense pas comme moi, qui ne vit pas comme moi. On a une peur, et je pense qu'on le voit aujourd'hui, on a d'emblée une peur de celui qui est différent. Je ne l'accueille pas à bras ouverts en me disant « mais bien sûr, venez m'expliquer comment vous fonctionnez, je ne comprends pas ». Ce n'est pas ce qu'on fait. Pour le faire, il faudrait qu'on soit tranquille intérieurement, très sécurisé, comme le roseau hein, dans la fable et la fontaine, qui est roseau qui n'a pas peur du chêne. Et évidemment, comme tous, on a eu des éducations qui étaient celles qu'elles étaient, avec leur raté, on n'a pas cette sécurité intérieure qui fait qu'on va accueillir la différence d'emblée à bras ouverts. Donc voilà pour ce point sur l'homosexualité qui, je pense, est difficile, qui peut être difficile pour chacun d'entre nous. L'autre point, ce serait que l'acceptation de la différence fait partie des traumatismes universels. Hein. Ce qu'on appelle un traumatisme universel, c'est ce à quoi l'homme ne peut pas échapper dans tout le monde, quel que soit son état, comme le vieillissement, la mort, la souffrance. Tout ça, ce sont des états que l'homme, avec un grand H, c'est-à-dire l'homme et la femme, vont traverser tout au long de... que nous allons tous traverser tout au long de notre vie, et quel que soit le lieu de la planète ou ma religion. Donc, je mets en fait cette difficulté avec l'homosexualité du côté d'un traumatisme face à la différence. L'altérité, l'autre différent de manière générale, la découverte de la différence des sexes, le vieillissement, la mort, la souffrance... La puissance écrasante de la nature, disait Freud, tout ceci ce sont des traumatismes, et il y en a d'autres, hein, l'injustice notamment, des traumatismes universels. Le plus dur pour nous, êtres humains, c'est être un, unique, différent, parmi d'autres, et de même valeur. Je recommence. Être un unique, différent, parmi d'autres, et de même valeur. C'est ça l'enjeu pour nous. Et quand on fait grandir des êtres humains, qu'on soit parent ou pas, peu importe, c'est ça l'enjeu, c'est unicité un parmi d'autres. Et pour nous, il s'agit de garder un équilibre permanent pour être un unique parmi d'autres. Et c'est vrai que garder cet équilibre est énergivore. Et donc, je l'ai dit... gardons-nous de cette tentative imaginaire d'indifférenciation comme quelque chose qui serait libératoire. Ça n'est pas ni juste ni vrai. L'apprentissage de la différence fait donc partie de l'éducation humaine. Il demande un déplacement constant hors de soi pour entendre l'autre sans se sentir menacé. Intérieurement, structurellement, c'est le prix de l'enrichissement par l'autre. Mais après, quelle joie ! Quelle joie de cette ouverture quand j'arrive à parler à quelqu'un sans être menacé par sa différence et dire « Ah oui, j'avais jamais pensé à ça. J'avais jamais pensé à cet aspect-là de la chose. Merci de ton enrichissement. » L'enjeu, et je trouve ça extraordinaire aujourd'hui, c'est pour les hommes et les jeunes, hein, hommes et femmes, il y a un enjeu extraordinaire que ma génération n'avait pas, encore moins les générations d'avant, pour d'autres raisons, c'est la vraie possibilité d'un équilibre homme-femme, comme jamais dans l'histoire de l'humanité. C'est de pouvoir conjuguer l'homme et la femme au même niveau de valeur avec leurs différences profondes. Je reprends une phrase de Sylviane Gazinski qui disait « La logique du vivant est la logique de la différence sexuelle. L'enfant naît d'un homme et d'une femme. » Alors maintenant, j'attire sur l'attention, mais je l'ai déjà fait sur ces ondes-là, sur le fait que la domination masculine ne doit pas être remplacée, transformée par une domination féminine qui serait au moins aussi injuste que ce qui a été vécu pendant des siècles. Mais, donc, aujourd'hui, nous avons, avec nos jeunes qui auront plus de facilité, une vraie possibilité de conjuguer sur une même ligne les richesses de l'homme et de la femme. Alors, pour ne pas conclure, je reprends certains points. Personne n'est figé dans l'éducation sexuelle qu'il ou elle a reçue. Sinon, il y aurait un espèce de déterminisme. Voilà, c'est comme ça. Ah oui, mais j'ai subi tel traumatisme, mon père, ma mère, mon histoire, mon grand-père, ma grand-mère. Et voilà, donc ça explique. Mais ceci dit, je voudrais dire que il s'agit pas d'attaquer... Là, on est sur le fond de la question. Quand on rencontre quelqu'un qui a une vie homosexuelle, il faut avoir une pleine conscience qu'une personne qui ne peut pas se lier, être en communion avec une personne d'un sexe différent, a de vraies raisons de ne pas l'être, de ne pas y arriver. Donc, il faut écouter ces vraies raisons d'abord, avant tout. Pas pour les changer, simplement les écouter. Le pape revient beaucoup sur cette question, hein, d'écouter et de ne pas faire avant tout. Après, l'esprit fera le reste. Deuxième point, je rappelle que la seule structure qui existe, c'est la structure humaine qui est sexuée. Ce n'est pas la structure homosexuelle, perverse, paranoïaque ou tout ce que vous voulez. C'est la structure humaine. Nous sommes avant tout des êtres humains. Je rappelle ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les jeunes sont la génération où va pouvoir naître un équilibre homme-femme. Et enfin, chacun a la liberté de son chemin. Et Dieu merci, et Dieu est sur chacun des chemins. Voilà, j'ai fini le gros de ce que je voulais dire et je vous écoute très volontiers pour vos questions. Merci.
Pascal Vidal, nous avons Viviane avec nous qui souhaiterait intervenir. Bonjour Viviane.
Bonjour.
Bonjour.
Merci pour l'émission. J'ai suivi l'intervention et cela m'a beaucoup interpellée sur la profondeur de la question. Et si je ne sais pas si j'ai bien compris, mais je pense que vous aviez insisté sur le fait que voilà, il ne faut pas être dans la stigmatisation et qu'il faudrait plutôt prendre le temps et de reconnaître en premier lieu que l'autre qui est en face de nous, qui a voilà une vie différente ou bien voilà un vécu différent, est essentiellement en premier abord humain. Donc il faudrait de la bienveillance pour traiter de ce sujet et il faut pas se braquer. Et pour expérience personnelle, je pense que je ne peux pas comparer les deux choses de la même façon. Et moi, j'ai un enfant qui est en situation d'handicap et je vois que voilà l'handicap en soi qui est voilà et ce qui est parce que la personne est différente. Au premier abord, au premier moment, les réactions des gens par rapport à mon enfant, ça m'offensait et ça m'attristait beaucoup. Mais après, j'avais compris au fait que c'est parce que les gens, ils étaient effrayés. Et voilà, ils étaient effrayés de cette réalité qui n'était pas la leur. Et donc, par crainte, ils sont agressifs ou bien ils vont faire c'est pour se protéger au fait de cette réalité qui en soi, ça leur fait peur, tout simplement, dont ils ne connaissent pas. Donc, ça leur fait peur. Et moi, ce qui m'a toujours interpellée, étant chrétienne, C'est une question que je m'étais souvent posée longtemps, de comment est-ce que je devrais intervenir avec une personne qui était homosexuelle. Voilà, parce que je me disais, voilà, la personne, elle a un vécu qui est carrément différent de la mienne. Et étant chrétienne, voilà, en mon intérieur, je me dis, mon Dieu, il a créé l'homme et la femme, et c'était des personnes différentes, et c'est cette relation qui devrait être naturelle. Mais si une personne en venait à avoir une sexualité différente, je ne savais pas comment appréhender la chose, comment me comporter avec cette personne. Et pourtant, bon, je me disais quand même qu'il fallait que je ne sois pas au premier abord, dans le jugement. Il fallait que je comprenne pourquoi la personne était comme ça. Et par rapport à la religion, je voulais vous poser la question de savoir, je ne sais pas, on ne sait pas réellement comment se comporter. Ce n'est pas qu'on n'aime pas son. Voilà, c'est souvent même, il y a quelque chose qui m'interpelle. Hein. Je vais prendre un exemple personnel. J'ai un frère qui a un comportement efféminé. Voilà, qui déjà mes parents l'ont surpris, est en train de visionner un film pornographique gay. Et ma mère, voilà, était tellement choquée. Et pour elle, elle était genre, elle allait devenir folle. Elle se disait, c'est un malheur qui m'arrivait et tout. Et moi, j'essayais de la tempérer et de, voilà, de lui dire, s'il te plaît, ne sois pas dans. Voilà, mais pour elle, c'était une lettre, quoi. Et je lui disais, souvent, j'ai ramené le sujet parce qu'elle veut pas, elle veut pas en entendre parler et tout. Et je me disais, dans cette situation, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Parce que je vois bien que pour moi, peut-être étant un peu plus jeune, j'essaie de comprendre l'autre, pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Pourquoi est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on devrait faire au juste? Pour vous qui êtes psychologue, ma question réelle, c'est comment faire? Parce que ce n'est pas, je ne sais pas, vous aviez dit que, voilà, on ne peut pas dire à un jeune qu'il est homosexuel, c'est déjà le mettre dans un cadre et l'y contraindre, voilà. Et c'est plutôt, voilà, se penser à ce que, voilà, il est dans un moment de sa vie où il est en train de, voilà, il est dans une phase,
Merci.
et que ça peut, voilà.
Merci beaucoup, madame, pour ce témoignage qui me permet de préciser plusieurs points. Alors, avec la question du handicap, vous montrez de manière aiguë d'une autre manière ce que je dis, c'est-à-dire que quand on rencontre une personne handicapée, on voit d'abord une personne handicapée et pas un être humain.
Voilà.
Quand je rencontre à l'hôpital un père dont je viens de voir la radio de la fille qui comporte 30 fractures dont il est responsable, je vais voir un père qui a maltraité sa fille. Ben, je peux avoir la tentation. Or, nous avons constamment, et pour répondre à votre question, c'est la première chose à faire, c'est je regarde, je suis avec un être humain. Pas avec quelqu'un qui a maltraité son enfant, quelqu'un qui a un handicap, quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui est dépressif ou je ne sais pas. Je rencontre quelqu'un qui est en prison, par exemple. Bon, il faut nous habituer à nous remettre dans une position, et quand je dis regarder, c'est regarder au même niveau, hein. C'est ni vers le haut, comme si je regardais un maître qui sait, ni vers le bas en disant oh là là, le pauvre, ni avec scandale en disant mais qu'est-ce qui vit, je ne comprends rien, dans l'exemple de votre maman, par exemple. C'est apprendre à se décaler, mais comme vous le dites très très bien, qu'est-ce qui nous empêche de nous décaler? Deux choses, la peur. Je ne comprends pas. Et deux, je ne suis pas sûre de moi. Par exemple, une maman n'est pas sûre de l'éducation, de ce qu'elle a donné. Elle a l'impression de rater, d'avoir qu'elle ratait quelque chose, etc., etc., dans votre exemple. Et du coup, je vais tout de suite être repliée en disant, mais non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, respirer, se remettre dans un état qui n'est pas naturel. Nous voyons bien, bon, c'est pas un état naturel dans lequel je parle d'abord à un être humain. Donc ça veut dire que je mets le discours de l'Église dans ma poche. J'ai pointé sur le fait que le discours de l'Église, c'est un discours d'être humain, qui a ses profonds avantages, c'est de nous pointer le fond de la question, et parfois se trompe. Mais donc je me nourris de ce discours de l'Église pour savoir où j'en suis, mais je ne l'applique pas comme étendard ou comme filtre pour regarder quelqu'un. Ça, je peux le faire avec l'Évangile, mais certainement pas, ou vous aurez du mal à trouver quelque chose sur l'homosexualité dans l'Évangile, mais certainement pas pour appréhender un être humain. Donc c'est chouette ce que vous donnez comme exemple, qu'est-ce que je dois faire, c'est me déporter. Pourquoi j'ai peur ? De quoi j'ai peur ? Pourquoi j'ai peur ? Mais est-ce qu'il me menace ? Et finalement, l'autre, il peut bien être comme il paraît, mais il ne peut pas être réduit à ce qu'il paraît. Si on nous redisons, mais c'est pareil pour ceux qui sont en train de mourir dans un lit, on a l'impression de voir quelque chose d'inutile, oui, au lieu de voir un être humain qui est vivant comme il est vivant, et puis j'écoute cette personne qui a sûrement des tas de trucs à m'apprendre, au lieu de le voir à travers mon propre fil. Mais ça, c'est un vrai décalage. Juste un petit truc, un petit point sur le fait de comprendre. On a une déviation humaine, c'est de vouloir comprendre au lieu de vouloir sentir. Parce que quand je sens, je ressens face à une personne, je me mets en position d'écoute active où mon cœur est en branle, si je puis dire. Et ça, il faut pouvoir l'accepter. Accepter d'être malmené, accepter d'être dans la joie, mais accepter, écouter avec son cœur et pas essayer de comprendre, de passer par un fil de la compréhension. Quand quelqu'un me dit quelque chose, la première question, c'est qu'est-ce qu'il est en train de me dire ? Parce que j'ai des filtres qui ne sont pas les siens. Voyez. Parlons-nous pour approfondir. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Merci en tout cas pour votre remarque.
Merci à vous aussi.
Merci.
Bonne journée.
Merci Viviane.
Bonne journée.
Merci. Alors, nous avons aussi reçu une réaction par SMS que je vais lire tout de suite. Merci pour cet éclairage. On a beaucoup à changer nos cœurs, nos regards, surtout en tant que chrétien. Je serai plus vigilante dans mes jugements. Merci beaucoup. Et c'est André qui nous envoie ce message.
Merci André. On a vraiment un gros travail. Tous et tout le temps.
Voilà, c'est la conversion.
Oui.
Et nous arrivons déjà au terme de l'émission. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, un message d'espérance pour conclure au sujet de cette émission ?
Oui, je voudrais profiter de ce temps de carême pour proposer justement une vraie conversion du cœur, d'accepter de se laisser toucher, ouvrir, parce qu'il n'est pas comme moi, pour pouvoir sentir la richesse de l'autre et quand j'ai peur, de me dire que Dieu est à l'intérieur de moi, je ne peux pas être fracturée complètement, parce que quelle que soit la différence que je rencontre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se protéger, hein, et qu'il faudrait se mettre en danger, c'est pas ça. Quand on écoute quelqu'un, qu'on reste dans une attitude d'ouverture, parce que plus on est ouvert, et plus l'autre va sentir aussi ce Dieu à l'intérieur de moi.
Merci beaucoup, à très très bientôt, Pascal Vidal, merci.
À bientôt,
au revoir. Bonne journée.